Alors, je me suis engagé à parler dans le prolongement, au fond, de ce que vient d'expliquer Marcel Cabanda, d'un problème de méthode, c'est-à-dire le passage des sources orales à l'écriture de l'histoire du temps présent. Nous pensons tous donc ici à l'histoire du génocide des Tutsis du Rwanda, mais les historiens sont toujours là un peu pour bousculer, pour je vais dire, mon choix brechtien de la distanciation est très relatif, puisque je vais surtout parler du Burundi, qui est quand même juste en face, juste à côté du Rwanda, mais ce sont deux faux jumeaux. Et je vais prendre cet exemple parce que je le connais depuis très longtemps, et puisque ça permet de réfléchir en se distanciant un peu, encore une fois, par rapport au génocide du Rwanda, même si c'est passé des événements analogues au Burundi. Si vous voulez approfondir la question, donc je m'appuie notamment sur Burundi 72 au bord des génocides, et d'autre part une étude sur la crise d'août 88 au Burundi. Alors, quelques remarques initiales sur l'historien, l'histoire et le temps présent. Au fond, il y a un engagement scientifique des historiens aujourd'hui qui est de plus en plus clair et qui a l'air un peu corporatiste, c'est de défendre le métier d'historien, la méthode historique, face à tous les simplismes, à tous les simplismes, à toutes les simplifications auxquelles on assiste dans la médiatisation. Il y a un débat actuel, vous savez, autour de l'histoire de France. On a sacrifié notre histoire de France pour, évidemment, par exemple, introduire une question d'histoire de l'Afrique dans les collèges en 5e. C'est grave parce qu'on va sacrifier Vercingétorix, Napoléon, Louis XIV. Bon, ça, c'était caricatural, mais c'est tous les jours, hein, à la télévision, etc., que l'on voit cette tentation de dire les historiens, les universitaires, finalement, ne nous parlent pas de la vraie histoire, qui est la grande histoire, etc. Alors, dans cette défense de la méthode historique, il y a notamment, je ne vais pas développer là-dessus, l'attention rigoureuse aux documents. L'historien est quelqu'un qui ne travaille pas à partir de n'importe quoi, qui travaille à partir de documents dûment traités et critiqués. C'est devenu vraiment stratégique de défendre cela à l'époque où les clics très rapides sur Internet permettent rapidement de se faire une idée en passant par-dessus les efforts de méthode. D'autre part, encore une deuxième généralité, l'historien n'est pas un juge, c'est parfois un témoin de contexte dans des procès, mais chacun sait que la vérité que recherche la justice, qui est une vérité qui tranche, est différente d'une certaine façon de la vérité toujours mise en discussion. Ça ne veut pas dire mise en discussion n'importe comment, hein. Il y a chez l'historien la conscience qu'un débat n'est jamais clos, hein. Et puis surtout qu'il y a sur une réalité plusieurs niveaux de narration. Par exemple, parlons du Rwanda, vous pouvez avoir une étude très précise sur une colline ou sur une région ou sur l'ensemble du pays. Chaque fois, il y aura une focale différente. Chaque fois, il va y avoir des approches qui vont donner des interprétations modulées différemment. Ce n'est pas contradictoire, mais cette diversité de regard est très importante. Alors, ce sur quoi donc je veux m'arrêter, c'est sur ce recours à l'oralité. Il est connu que les sources orales ont joué un rôle décisif dans le renouveau des études d'histoire africaine depuis, disons, au moins un demi-siècle. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas des traditions orales, il s'agit d'histoire orale, comme on a pu faire l'histoire orale de certains aspects de la Seconde Guerre mondiale en Europe, ou de l'histoire de mouvements sociaux en Angleterre au XIXe siècle, etc. Bon. Donc, histoire orale, ce ne sont pas les traditions orales, il ne s'agit pas d'un corpus figé par la mémoire collective dans un contexte social bien précis où il n'y a ni radio, ni télévision, ni écriture, hein, où donc la culture se forge uniquement par l'oralité. Il s'agit cette fois-ci d'histoire orale, c'est-à-dire de témoignages, et quelques remarques générales sur cette voie de l'oralité sont d'abord nécessaires. Bon, quel est l'apport spécifique de cette histoire orale? Il ne s'agit pas du tout de dire que les archives sont inutiles, que les écrits n'ont pas d'importance. C'est une autre approche. Alors, quelles sont les spécificités de cette approche? C'est de voir les réalités, comme on dit la politique par le bas, hein, la réalité par le bas, au niveau de la, disons, d'une culture populaire, du terrain. Combien de journalistes sont célébrés pour avoir, comme on dit, arpenter, j'ai souvent trouvé ce verbe, les terrains africains. Mais là, il ne s'agit pas d'arpenter, il s'agit de visiter et de revisiter. Donc le terrain, l'histoire orale, ce n'est pas tout d'un coup, un jour, on voit quelqu'un au coin d'une rue et il vous apporte toute la vérité. C'est un travail de patience. D'autre part, c'est un effort, du moins ce dont nous sommes convaincus, je crois, pour essayer de percevoir le vécu d'un événement de l'intérieur. Ce que des historiens allemands ont appelé la Alltagsgeschichte, c'est-à-dire l'histoire au quotidien, ou les Italiens microstoria, mais surtout cette expression d'Alltagsgeschichte, c'est-à-dire l'histoire au quotidien, l'histoire comment les gens l'ont vécu. Je vous fais rapidement une petite allusion ironique. La conférence de Berlin 1885, comment ça a été vécu chez les Africains? Ben, nullement, ils étaient au courant de pas du tout. Bon, et c'est important quand même, voir ça, c'est-à-dire qu'on a tranché d'une certaine façon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, de l'avenir des gens sans qu'ils soient vraiment au courant. Bon. Alors, donc, le vécu est important. D'autre part, une nouvelle remarque sur cette mémoire. Nous, en tant qu'historiens, nous savons bien que la mémoire, elle fonctionne selon son principe psychologique, social, culturel, qui a comme cette connivence entre le présent et le passé, cette illusion qu'on a un accès direct au passé. C'est aussi un moment de mobilisation politique, identitaire, comme on dit, ou une nostalgie, etc. Mais pour nous, il faut le reconnaître, bon, nous sommes dans notre laboratoire, si j'ose dire, pour nous, c'est une trace, comme tout document. C'est une trace que nous allons donc utiliser, critiquer, mettre en valeur, etc. Donc, il y a une dialectique entre la mémoire et l'histoire. Je ne développe pas là-dessus, mais je le rappelle. Dernier point sur l'oralité, dernier point général. Les gens que nous interrogeons, ces témoins du passé, ce ne sont pas souvent dans cette image en Afrique, ce ne sont pas des griots. Pensons à ces conteurs traditionnels pour aller vite de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire des gens devant lesquels on s'agenouille, qu'on écoute pieusement, qui nous révèlent le passé. Non, ce sont des témoins du passé, ce sont des gens qui nous apportent des éléments sur lesquels on va réfléchir. Comme me disait un ami à propos d'un personnage sur lequel je reviens la seconde qui suit, le lieutenant Abdul Rouzi Biza, qu'on écoutait comme si c'était Bernadette Soubirou qui révélait les apparitions de la Vierge Marie. Donc, le tout témoin est un témoin qui mérite d'être critiqué, ce n'est pas une révélation. Et pourquoi j'évoque ce livre signé par Abdul Rouzi Biza? C'est parce que, quand même, je ne peux pas m'empêcher de attirer votre attention sur une note qui était dans ce livre et qui montre à quel point on peut oublier les règles de base du métier et de la réalité de l'oralité. C'est une note de ma collègue Claudine Vidal, page 51 du livre, qui pour nous expliquer comment ce lieutenant savait tout, puisque son livre a une allure d'encyclopédie, nous explique que c'était un moyen mnémotechnique qu'avait employé ce monsieur Rouzi Biza, c'est-à-dire qu'il apprenait par cœur des dates suivies d'événements. Bon, nous avons tous fait ça d'ailleurs pour les examens. Mais elle disait, c'est dans la ligne de l'oralité traditionnelle. Alors c'est là que l'historien est choqué. Je m'excuse de le dire, parce que les récits auxquels qu'évoque du Vidal sur les Bitekenezo, ce sont ces récits traditionnels du Rwanda. Effectivement, il y avait un côté mémorisé, mais ce n'était pas du tout une liste de dates avec des événements. C'était une mémoire organisée, verbalement, reposant sur des jeux verbaux, sur des images, sur un rythme du récit. J'ai moi-même eu l'occasion de voir ça dans le cas burundais. Ça n'a rien à voir avec une liste de dates avec des événements. Ce n'est pas de l'oralité, ça. C'est autre chose. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Et ce que je veux souligner maintenant, c'est justement savoir de quoi on parle quand on parle d'oralité. Ce sont des gens qui parlent un jour dans un certain contexte et dont le témoignage est retenu comme un élément d'information. Parfois, ça peut être toute une population. J'ai dit que j'allais parler du Burundi. J'ai eu l'occasion de travailler donc en septembre 1988 dans deux communes au nord-est du Burundi, les communes de Ntega et Marangara, où avaient eu lieu des événements violents le mois précédent. Donc c'était juste au lendemain. Et là, il n'y a pas eu, de, si j'ose dire, de grands préparatifs d'enquête. Ça a consisté à aller sur place, à demander de faire ce travail librement, non accompagné par quelque autorité que ce soit, et à circuler et à parler avec les gens qu'on rencontrait. Bon. Alors, c'était toute la population qui était potentiellement témoin de, d'un événement qu'elle avait vécu le plus gravement possible. J'ai même eu à cette occasion, dans cette enquête, l'occasion d'interroger un enfant qui m'a raconté ce qu'il avait vécu. C'est un témoignage très, très intéressant. On dirait on est loin des traditions orales où on cherche les vieux. Hein. Et comme disait Jean Van Sina lui-même dès 61 pour la tradition orale, au fond, le mieux, ce sont les gens ordinaires plutôt que ceux qui résonnent. C'est-à-dire qu'il faut chercher des gens qui racontent. Et ça annonce ce sur quoi je vais mettre l'accent, c'est sur le récit. Alors, donc, après ces remarques générales, voyons de plus près la construction des sources orales. C'est, si j'ose dire, si je peux faire cette comparaison, une édition critique de la parole. Alors, cette édition critique suppose d'abord qu'on identifie clairement le contexte de l'enquête. Le contexte. Je reviens sur ces événements de 1988, non pas pour les raconter, mais pour expliquer les problèmes de méthode. Je vous ai parlé de cette enquête faite en septembre, un mois après, dans un contexte, mais d'émotion. Les maisons brûlées sont là. Les gens sont sortis de la brousse ou sont revenus de communes voisines. Tous ceux qui avaient fui au Rwanda ne sont pas encore rentrés. Je suis revenu à Ntega Marangara. Ça, je n'ai pas encore publié à ce sujet, d'ailleurs. Et j'ai fait de nouvelles enquêtes en mai 89, octobre 89, avril 90, après le retour des réfugiés. Le contexte est différent. Celui de 88 était, je dirais, plus émotionnel, et les gens qui parlaient, on avait l'impression que c'était la parole qui soulageait. Pas la prétention d'être un psychologue, M. Nasson, mais on a senti ça. Bon. Et en 89-90, c'était différent. C'était plus d'un an après, moins d'un an ou un peu plus d'un an. Il y avait notamment tous ces réfugiés. Alors, donc, je rappelle rapidement qu'il y a d'abord une rébellion de groupes Hutus qui ont massacré les Tutsis, puis représailles de l'armée qui a massacré des Hutus, fuite des Hutus, d'un certain nombre de Hutus au Rwanda, et puis retour. Bon, là, je ne suis pas là pour développer ces événements, mais voyez, vous avez une alternance de massacres. Là. Et en 89-90, c'est surtout des réfugiés revenus du Rwanda que j'ai été voir. Alors, ce qui m'a frappé, c'est une série d'éléments qui sont apparus à ce moment-là dans les enquêtes. D'abord, des gens qui, au fond, n'osent pas trop s'engager, qui disent que ce sont des éléments incompréhensibles. Ce qui est arrivé, moi, je ne peux pas savoir. Chacun cherchait le moyen de fuir et de sauver sa tête parce qu'on courait, on tombait dans un piège sans l'avoir remarqué. Tu voyais quelqu'un venir et dire que de l'autre côté, les gens se tuent ? Nous ne savions pas. Exemple. Ou bien, il y a l'argument de l'autodéfense, c'est-à-dire, on était menacé, c'est un peu normal qu'on ait tué. Ce sont les Batutsis qui ont commencé, les Bahutus ont été obligés de se défendre. Bon. Ou bien, il y a, au contraire, j'ai rencontré des Tutsis rescapés de cette affaire, du massacre initial, qui m'ont semblé moins effrayés qu'en 88, et notamment un qui me racontait comment eh bien, il avait vu les gens qui arrivaient, qui s'attroupaient, il avait cru qu'ils venaient chercher de la bière, ils ont refusé, alors en fait ils ont pris des personnes, les ont ligotées, les ont tuées, etc. Et il me raconte tout ce qui s'est passé, comment lui il est apparu comme un vieux, ne comprenant rien, alors finalement on l'a épargné, on l'a utilisé un peu comme main d'œuvre, etc. Donc il me raconte, là, lui, il m'a raconté plus qu'il n'avait, je l'avais vu en 88, il ne m'avait pas raconté exactement tout ce qu'il me développait là. Et puis, enfin, il y a ceux qui sont les bons citoyens burundais, nous sommes en 89-90, et qui parlent de réconciliation. Alors, ils sont là, des Hutus, enfin, il y a un Tutsi qui est dans le groupe, il dit ici, non, les Bahutus, les Batutsis ne se sont fait rien de mal. Tout s'est passé quand les armes à feu sont venues, sous-entendu, quand les militaires sont venus. Mais néanmoins, il ajoute après, nous fuyons ceux qui incendiaient les maisons et qui venaient de Mwendo, c'est-à-dire les rebelles initiaux. Donc, en fait, il parle de tout, mais il insiste, hein, vous voyez, ce monsieur Nyabenda, c'était le Tutsi du groupe, nous avons tout fait pour empêcher qu'on incendie sa maison. Si tu regardes tes sœurs, tes tantes, tes neveux, ce sont des Tutsis à cause des mariages. Bon, voilà, tu ne vas pas aller chez ta belle famille, tuer, etc. Ça ne serait dramatique. Ce que nous demandons, conclut ce monsieur, c'est que la paix règne au Burundi. Ceux qui viennent de l'extérieur n'ont pas à venir nous monter les uns contre les autres. Que vive la paix ! Alors là, c'est le discours qui est officiel à l'époque, puisque ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Burundi à cette époque, il y a eu, à la suite de ces événements, un tournant politique important mené par le président de l'époque qui s'appelait Buyoya. Il y a eu un premier ministre Hutu qui a été nommé, etc., etc. Donc il y a eu tout un travail pour tenter la voie de la réconciliation. Bon, alors autrement dit, un an après, les gens sont plus politiques, je trouve, qu'en 88. En tout cas, je ne peux pas développer ici, mais c'est important que j'analyse ce que me racontent les gens en fonction du contexte. Et la même chose pour le cas de 72, mais je ne développe pas, où nous avons travaillé avec Jean-François Dupaquier. Jean-François Dupaquier avait interrogé des gens au lendemain des événements, et ensuite, lui et moi, nous avons interrogé des gens, mon Dieu, 30 ans plus tard. Mais je ne peux pas développer. Alors, deuxième aspect, ce que j'appellerais le protocole de l'échange, car c'est une expression et c'est un échange verbal. Hein. La source orale, en négatif, il y a la personne qui interroge, qui est là. Hein. C'est une situation de communication. C'est un échange verbal dans certains contextes qui est un contexte culturel. On ne parle pas n'importe comment, n'importe où. Hein. Bon. C'est un dialogue, souvent, on dit la méthode semi-directive, c'est vrai. On ne vient pas avec un questionnaire, on répond par oui ou par non. Hein. On vient quand même avec une idée de quoi on va parler. On s'est donné une idée plus précise du questionnaire en commençant à discuter un peu avec les gens, à voir ce qu'ils ont, où ils sont, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont connu, etc. Et puis ensuite, on essaie de mener la discussion, de laisser parler surtout. Et de laisser parler avec une attention bienveillante. Pas dire « Ah oui, tu as raison !» ou « Ah non, non, ça c'est faux !» Non, nous, on est là, à ce moment-là, pour écouter. Hein, et éventuellement, si on trouve que c'est bizarre ce que nous raconte quelqu'un, on essaie de relancer par d'autres questions. Mais surtout, pas « Ah, c'est bien, voilà, c'est la thèse que nous venons défendre !» Non, une attention bienveillante. Donc, faisant la part du spontané, de ce qu'on suscite, de essayer de deviner les silences, parfois, sont révélateurs, les rires, etc. Il y a tout un protocole auquel il faut être attentif. Hein. Et même parfois, j'étais très content dans les années, dans l'enquête, je reviens sur ces enquêtes de 89-90, des confrontations de points de vue. Il y en a un, on est dans un groupe qui dit « Non, ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas dit la vérité ». Ben moi, je trouve assez sympathique que dans une discussion, quelqu'un dise cela. Et que donc, il y ait un débat qui soit mis dans la collecte, le recueil d'opinions. Donc, dans cette ligne-là, parce que j'y reviendrai un peu plus tard, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'une enquête soit une enquête meeting. C'est pour ça que la vidéo, je suis un peu réticent. J'avoue, hein, peut-être que je ne suis pas de la génération vidéo. Moi, j'ai travaillé encore avec des enregistreurs, avec des bandes qui tournaient, hein, pas le digital. Hein, mais pas de vidéo, parce que parfois les gens... Même le micro, il faut préparer les gens, il faut expliquer. Ce n'est pas pour la radio. Et on s'engage à ce que ça ne passe pas à la radio. On dit, voilà, c'est parce que ça va nous aider ensuite pour transcrire et pour transcrire fidèlement ce que vous nous avez dit. Hein. Donc, il y a toute une fiabilité qui tient à ce protocole. Alors, troisième aspect, l'émergence du narratif. Au fond, qu'est-ce qu'on fait sortir de tout cela ? C'est de la narration. Il faut démêler les faits. Là, je n'ai pas le temps de donner des exemples. Mais surtout, croiser les témoignages. Alors là, je vais faire une incursion sur le terrain rwandais pour dire ma perplexité devant un problème relatif aux événements de Bicécéro. Les événements de Bicécéro que tout le monde, je crois, beaucoup connaissent ici, leur première expression dans des sources, c'est dans la grande enquête que citait Marcel Kabanda, l'enquête d'African Rights, dans son édition de 1995. Hein. La résistance sur cette montagne de la mort depuis avril 1994, c'est dans les pages 662 à 670 de ce gros livre. La grande attaque précise l'enquête, la grande attaque contre ces gens qui tentent de résister intervient le 13 mai, quand des renforts de miliciens arrivent de Tiangugu, Gisenyi, Rwenguéri, Gikongoro, sans oublier des soldats, notamment des membres de la garde présidentielle. Parmi les chefs des attaques, il y avait le bourgmestre de Gishita, Charles Tsikubwabo, armé d'un fusil. La moitié des dizaines de milliers de réfugiés y auraient péri. Il ne restait qu'environ 2000 réfugiés à l'arrivée des Français. Arrive le nouveau choc pour ce qui reste des résistants de Bicécéro, c'est le 27 juin, avec tout d'un coup la confiance qu'ils font aux Français qui arrivent et qui sont lâchés. Bon, alors, il y a eu depuis lors une enquête depuis 2010, il en est question, puis d'autres rebondissements, d'un journaliste qui s'appelle Serge Farnel et qui, alors, au niveau, j'en reste au niveau du récit qui en ressort, ressort la chose suivante. Le 12 mai, un certain nombre, une cinquantaine de Tutsis, donc rescapés, auraient été convoqués dans un village où un officiel Hutu local nommé Charles Tsikubwabo, celui qu'on a vu tout à l'heure, aurait en quelque sorte convoqué ces gens qui seraient venus, alors que ce Charles Tsikubwabo est connu depuis avril pour être un massacreur. Alors, il serait venu quand même à cette convocation pour qu'on leur présente à ces rescapés des soldats français qui ensuite ainsi auraient pu mieux les tuer, les miliciens se chargeant seulement après de nettoyer le terrain. Ce récit est confirmé par un témoin, un certain Raphaël Magueza, beau-frère de Tsikubwabo. Bon, je ne peux pas développer davantage, mais quand on fait la critique d'un récit, qu'il soit écrit, oral, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le contexte. Alors, je ne reviens pas sur le contexte de l'enquête, sur le protocole que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a surtout aussi une certaine cohérence. Tout récit mérite d'être critiqué. Il peut y avoir des récits fantasmatiques, il peut y avoir des récits... Il faut aussi voir que des témoins eux-mêmes... Alors, il y a des témoins, intéressés. Alors, c'est tout le problème des repentis. On pourrait dire la même chose aussi pour certains passages du livre de Scott Strauss, Order of Genocide. C'est-à-dire que des repentis peuvent avoir intérêt à dire, nous, un peu comme les gens que je citais tout à l'heure, on n'a pas fait grand-chose, mais il y a des gens plus coupables. Bon, ils peuvent désigner effectivement des gens plus coupables, mais il peut y avoir aussi cette tentation de dire, c'est pas nous, c'est d'autres. En l'occurrence, ce sont des Français. Alors, je ne suis pas ici, je suis historien, je traite un point précis, je ne suis pas en train de dire que la politique française au Rwanda était bonne, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, comme le disait Vidal Naquet, qu'on sera d'autant plus convaincant qu'on sera plus rigoureux. Bon. Alors, donc, il y a des gens qui peuvent être intéressés à renvoyer les choses à d'autres. Il peut aussi y avoir des confusions. Vous savez, dans les premières enquêtes orales qui ont été faites sur toute autre chose, sur des traditions des royaumes des Grands Lacs, à la fin du 19, plutôt début 20e, on a retrouvé dans des récits de gens qui parlent, qui donnent la tradition, des éléments, des idées qui étaient dans la tête de certains explorateurs, que ces explorateurs avaient fait partager par des chefs locaux, etc. Donc il y a des idées qui circulent. La culture orale n'est pas étanche à ce que disent des politiciens, à ce que dit la radio, etc., etc. Donc, il y a un élément critique. Bon, à partir de là, on produit du texte. Alors, je voulais insister sur les mots. Par exemple, dans le cas de 88, parce que c'est trop beau, il y a le mot Kirundi, je dis bien, l'État. L'État. L'État, c'est l'administration, c'est la chose publique. Eh oui, le mot français est passé en Kirundi. Mais le mot l'État, les gens se mêlent un peu les pinceaux, comme on dit, avec ce mot, parce qu'ils vont parler de l'armée, ils vont parler de l'administration, qu'ils ont essayé de prévenir, disent-ils, en vain. Ils vont parler aussi de leaders rebelles, instituteurs, fonctionnaires, etc. Alors, ils ne savent plus où s'y retrouver dans cet État qui prend plusieurs visages. Donc, parfois, il y a des choses qui se laissent dire, qui ne se disent pas, mais qui se laissent dire à travers les mots. Bon, alors, les experts, ce que je voulais insister, ça sera une sorte de conclusion, c'est que les expériences vécues sont particulièrement intéressantes comme pour être confrontées, ce que je dirais, aux opinions formatées, parce que la réalité est complexe. Et ce que nous essayons de mettre en valeur en historien, c'est la complexité du réel. Ça ne veut pas dire qu'on échappe à toute appréciation, à toute interprétation, mais il faut respecter cette complexité. Alors, par exemple, Scott Strauss dit que les motivations idéologiques sont pratiquement absentes des propos des gens qu'il a interrogés. Jean Hatzfeld, n'est pas historien, mais fait de bonnes enquêtes, dit « c'est un des sujets justement les plus difficiles à aborder ». Et moi, je peux vous dire que dans les enquêtes que j'avais faites au Burundi, je ne vais pas citer, il y a des éléments où les slogans de propagande apparaissent, sont cités, sont simplement cités. Bon. Il y a, face à, donc, à des scénarios simplifiés, une complexité du réel. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé, je dois quand même le dire, parce que c'est aussi observable dans la grande enquête d'African Rights, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont, si j'ose dire, hétérodoxes par rapport à l'appartenance des témoins. Autrement dit, vous avez des témoignages sur la réalité du génocide des Tutsis du Rwanda dans la bouche de Hutu. Hein ? Et moi, dans le cas burundais, j'ai eu des témoins Hutus des massacres commis par des rebelles Hutus au sud du Burundi. On a, avec Jean-François Dupaquier, une élève Tutsi de l'école d'administration à Bujumbura, pour 72, qui explique comment elle s'est employée à mentir pour défendre son ami et qu'on disciple Hutu. On a même interrogé un ancien gardien de prison Tutsi à Gitega qui nous a dit des choses terribles sur les représailles contre les Hutus au Burundi à ce moment-là, en 72 encore une fois. Donc, ce qui ressort, c'est cette complexité, et c'est là la richesse. Et c'est là qu'il y a une conviction qui se forge, hein, et pas à travers des discours standardisés. Néanmoins, on comprend un peu comment se fait la standardisation, parce qu'il y a aussi des personnages très importants qui apparaissent dans ces enquêtes. C'est un peu comme dans les allégories, c'est la peur et la rumeur. Et beaucoup d'éléments dits d'information peuvent être fondés aussi sur de la rumeur. Mais la rumeur n'est pas sans intérêt. Évidemment. Donc il y a tout un problème de discussion, d'interprétation de tout cela. Alors, pour terminer, pour justifier que j'ai parlé surtout du Burundi, d'abord parce que c'est le terrain vraiment le terrain que je connais, il n'y a pas une commune du Burundi où je n'ai pas été. Bon, autrement dit, il y a un éclairage, mais vous voyez que cet éclairage, il n'est pas seulement méthodologique, parce que les deux pays sont voisins, mais comme chacun sait, le Burundi a aussi connu des choses graves. Le Burundi apparaît un peu comme un écho du Rwanda sur un plan idéologique, je ne peux pas développer, mais un écho, j'allais dire, inachevé. J'ai parfois employé cette expression, on en avait parlé avec Marcel, de mauvais élève, le Burundi mauvais élève de cette idéologie de race. Mais je dirais, à contrario, pour le Rwanda, on a bien vu qu'il ne faut pas baisser les bras, que la complexité, malgré la volonté des génocidaires, parce que ça a été leur volonté de simplifier, de tout réduire à cette opposition, de faire que tous les Hutus soit des criminels. Ce sont les génocidaires qui ont voulu cela. C'est pas la propagande soi-disant Tutsi, c'est l'idéologie du Hutu Power. Et bien, malgré cela, et bien, on l'a vu dans les enquêtes d'African Rights, on le voit, je termine par les enquêtes d'Hélène Dumas, hein, qui insiste bien sur le fait que l'histoire de la radicalité des massacres du printemps 94, elle est racontée par la voix des acteurs eux-mêmes, etc. Donc, une histoire collective qui ressort de ces récits. Donc, vous avez compris aussi que j'insiste beaucoup sur le récit, sur, disons, les deux mots-clés étant le récit et la critique du récit. Je vous remercie.